Oye comora, ça veut dire hola, Thomas, ça veut dire comment ça va, quoi.
Oui, oui, grosso modo, c'est
oui,
ça.
Vous êtes bon. Et alors, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 21 mars. Bonjour à tous, il paraît que c'est le printemps. Il paraît que c'est le printemps, tiens. Il paraît que ça bourgeonne. Il paraît que ça reverdit. Il paraît que les oiseaux lyres sont en fleurs. Il paraît que les désespoirs du poète s'ouvrent. Il paraît que ça campagne. Il paraît que ça feuille. Il paraît que ça va fleurer. Il paraît que c'est le printemps. Il paraît que sa t-shirt, il paraît. Il paraît que sa mini-jupe. Il paraît que ça bagnote sur les grands boulevards. Il paraît que c'est la saison des amours. Il paraît que ça repart. Il paraît que c'est l'espoir. Il paraît que c'est le printemps. Il paraît que c'est les élections. Il paraît que c'est bien. Il paraît que c'est le renouveau, que c'est l'avenir, c'est le devenir. Il paraît que c'est mieux. Il paraît qu'il faut y croire. Il paraît que c'est le printemps. Il paraît que ça recommence, que ça renaît. Il paraît qu'il y a des nouvelles peaux. Il paraît que les sourires fleurissent aux bouches des uns des autres. Il paraît que tout efface la veille, que demain c'est mieux qu'aujourd'hui. Il paraît que c'est le printemps. Il paraît que l'hiver est mort, que l'hiver est fini, que la saison du noir ou en broie du noir est derrière nous. Il paraît que c'est le printemps. C'est peut-être vrai, va savoir si on nous l'annonce tant que ça. S'il y a des météos, s'il y a des calendriers, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien. Alors, eh ben, alors un très joyeux printemps, bien sûr, à tous ceux qui nous écoutent. Quant à ceux qui ne nous écoutent pas, pourquoi ? Est-ce que vous trouvez que c'est gentil ? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est là ? On est là ? Alors vraiment, vous seriez en train de faire autre chose, moi je ne vois pas. Tito, vous imaginez ce que pourraient faire les gens ce matin par être avec nous ?
Non.
Parce que nous, on est avec eux, pourquoi eux ne seraient pas avec nous ?
C'est injuste.
Voilà,
à pas l'intérêt de faire autre chose.
Merci Titi Paretou, faites-nous votre petit journal. Thierry Paret, le retour.
Bonjour à tous.
Hier, vous étiez où, Thierry ?
J'étais pas loin, oui, par là, enfin de.
Vous n'étiez pas à la radio, vous étiez en garde
non,
à vue.
Non, je fais un peu l'impasse, je prends un peu de recul, un peu de distance.
Vol de chaussettes.
Un peu de hauteur avant ce
garde
débat.
Garde à vue, oui.
C'était important de prendre un peu de recul. Un long débat, vous l'avez peut-être suivi, d'ailleurs 3h24, très précisément, un débat animé, on peut le dire, entre les prétendants, censés être les 5 principaux à l'Elysée, ça fait évidemment discussion. Il a cependant fallu attendre une heure pour que Marine Le Pen déclenche une première attaque contre Emmanuel Macron, par exemple, à propos du Burkini. Marine Le Pen, dont les déboires judiciaires, tout comme ceux de François Fillon, d'ailleurs, n'ont donné lieu qu'à de rares allusions.
Si c'est pour dire que Marine Le Pen, c'est pas ici.
Parmi les candidats ont abordé la réforme de l'école, plusieurs dossiers évidemment, celui des retraites, l'immigration, à travers le Burkini notamment, la transparence de la vie politique également. Parmi les temps forts, on notera le clash entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, ce dernier étant sommé par le candidat socialiste de clarifier le financement de sa campagne et son indépendance par rapport au lobby. Difficile évidemment de résumer 3h24 en quelques secondes.
Très bien, mais ne tombez pas dans le piège, Thierry Paret, d'attendre le clash pour le commenter. C'est-à-dire quand il y a des clashs, vous dites, vous allez faire comme tout le monde, vous allez dire, voilà, il n'y a plus de conversation de fond, il n'y a que des clashs.
Moi, j'attends que ça.
Et quand il n'y en a pas, on va dire, ah, c'était un peu ennuyeux, c'était mou. Attention.
Moi, j'attends que ça.
Franchise.
Selon un sondage Elab pour c'est Emmanuel Macron, pardon, qui a été jugé le plus convaincant hier soir par 29% des téléspectateurs, devant Jean-Luc Mélenchon, 20%. Ensuite, on trouve François Fillon et Marine Le Pen, 19%, et Benoît Hamon à 11%. Marc Joulot est convoqué par les juges en vue d'une mise en examen. Le député qui a remplacé en 2002 François Fillon à son siège de la Sarthe a employé Pénélope Fillon comme assistante parlementaire jusqu'en 2007. La gestion des contrats de collaborateurs parlementaires ne finit pas de provoquer des controverses. Alors que François Fillon est mis en examen dans l'affaire du Pénélope Gate, tout le monde le sait, et alors que, tout le monde le sait aussi, deux proches de Marine Le Pen ont eux aussi été mis en examen dans l'affaire des assistants du Parlement européen soupçonnés de travailler pour le FN, eh bien on apprend que, avant qu'il ne devienne ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux aurait fait signer entre 2009 et 2016 24 contrats de collaboratrices parlementaires à ses filles dès l'âge de 15 ans, lorsqu'elles étaient encore lycéennes, pour un montant total qui avoisinerait les 55 000 euros, à des moments où parfois elles étaient en stage ou à l'école. Selon Bruno Le Roux, il s'agissait de boulot clé. Quoi qu'il en soit, il est convoqué aujourd'hui devant le Premier ministre. Londres déclenchera le Brexit le 29 mars en activant l'article 50 du traité de Lisbonne. Le gouvernement britannique de Theresa May lancera officiellement son divorce avec l'Union européenne. Saisi par les groupes de gauche du Conseil régional d'Île-de-France sur la clause Molière, imposant le français dans les marchés publics français, le préfet d'Île-de-France, Michel Delpuech, exhorte dans un courrier la présidente de la région, Valérie Pécresse, à éviter, je cite, « tout risque d'illégalité manifeste ». La gauche demande le retrait immédiat de cette mesure qu'elle qualifie de discriminante.
Michel Delpuech.
Delpech, à ne pas confondre, évidemment. Non. La centrale nucléaire de Flamanville est totalement à l'arrêt. Le réacteur numéro 2 a été arrêté hier à la suite de la défection d'une fuite d'eau sur un circuit situé dans la partie, c'est ce qu'on nous dit en tout cas, non nucléaire. Un incident avait déjà provoqué l'arrêt le mois dernier de l'autre réacteur de cette centrale qui décidément va très bien. Les salariés du centre hospitalier de Kourou, en Guyane, sont en grève. Ils s'inquiètent de l'avenir de leur hôpital. Pour se faire entendre, ils ont érigé un barrage à l'entrée du centre spatial guyanais. C'est un acte symbolique, mais parce que selon eux, on n'a Dieu que pour le centre spatial en Guyane. Enfin, résultat, en tout cas, une fusée Ariane 5 qui devait décoller ce mardi partira demain au mieux. Le nombre de sites piratés a augmenté l'an dernier de 32% et cette tendance n'est pas prête de ralentir. C'est pas une surprise, mais voilà, c'est une mise en garde de Google.
J'ai pas compris.
Le nombre de sites piratés a augmenté de 32% l'an dernier et ça va augmenter. Enfin, ce pourcentage va sensibiliser.
Ou sur lequel on ne peut pas rentrer, sur lequel on pourrait pas rentrer, il faudrait un code d'accès.
Ou qui sont piratés, détournés, tu vois. Voilà. Et puis elle était la grande figure de la danse contemporaine, la chorégraphe américaine Trisha Brown s'est éteinte au Texas. Elle avait 80 ans. Trisha Brown a créé plus de 100 chorégraphies et 6 opéras avant de quitter la scène en tant que danseuse. C'était en 2008.
D'accord. Alors, le journal.
Non.
Hein ? Non. Dis donc, quoi.
Alors, un long débat, 3h24. Ah non, pardon, j'ai pas compris.
Il leur fait. Hein.
Quoi ?
Ah, moi, si vous demandez qu'il leur fasse, il leur fait.
Moi, je suis une machine.
Je suis une machine.
Pas du tout, mais non, vous êtes formidable. Mais alors, on l'a eu ?
On l'a eu.
Le journal ?
On l'aura aussi.
Ah, le journal. Un long débat de 3.
Non, alors, ça, pardon, attendez, d'accord. Attendez, ne perdons pas peut-être les gens. Alors, bonjour.
Bonjour.
Alors,
un long.
Non, alors, le journal. Comment c'est l'émission ? Parce que moi, je suis un petit peu perdu.
Petit monologue au début.
Alors, il y a des petits monologues musicaux.
Ouais.
Côté chansonnier, un petit peu.
Oui, les jeux de mots, les calembours.
Les cabarets, des calembours. D'accord, il y a Tito qui est là.
Bonjour. Bonjour
Tito,
bonjour.
Vous allez nous. À un moment, il y a la Météo Flamenco.
Ouais.
C'est pas maintenant ?
Non.
D'accord.
Non, je l'appelle quand vous voulez, de toute façon.
Il y a Atman qui s'est foutu notre gueule, qui n'est pas réveillé, mais qui va arriver.
Il va arriver dans pas
Il y a des invités.
Il y a François Rollin.
Au téléphone, parce qu'il n'est pas là. Bon, pour le moment, ce n'est pas très féminin. Qu'est-ce qui se passe, Thomas Baumgartner ?
Moi,
je ne me lève pas le matin pour voir 5 barbus comme ça, avec comme ça des haleines avinées, des t-shirts, avec des poils sur les jambes. Donc, on a aussi des invités.
Oui, absolument. Oui, c'est vrai.
Qui ça ?
Il y aura Patrick Rambaud, tout à l'heure, vers 8h.
Il est arrivé très tôt, alors je l'ai foutu avec des cafés, des cigarettes sous la verrière.
Là, on saura tout. Il avait publié chronique d'une fin de règne chez Grasset, il nous en parlait.
C'est formidable.
Voilà.
Il y a d'autres gens, je sais. Eugénie, qu'est-ce qu'il y a ce matin ?
Il y a de l'after.
Parce que s'il y a des gens pas réveillés, moi, ça va s'entendre. Vous voyez,
Jean-Pierre Tutin.
Ah oui, mon camarade Jean-Pierre Tutin. Alors écoutez, on va mettre de la musique, on va prendre des cafés. On est dans le même état que vous, tout de suite.
7h-9h, plus près de toi. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Atman.
Oui.
Mais vous n'êtes pas là, vous arrivez dans combien de temps, mon vieux ?
Écoutez, je peux être là dans les 10 minutes.
Oui, mais vous avez une lettre d'excuse ?
Oui, j'ai eu ce qu'on appelle, par une métaphore, une panne d'oreiller. Voilà.
Oui, mais il n'y a aucun métier au monde, aucune entreprise, aucun bureau, aucune officine qui accepterait que vous pointiez un quart d'heure en retard pour une histoire de panne d'oreiller. C'est un mot qui sent le mauvais élève, ça sent le cancre.
C'est grave.
C'est grave pour votre carrière, mon vieux.
Parce que le panneur chez moi, il a ouvert l'oreiller. Là.
Mais je m'en fous. Moi, ce que je vois juste, c'est que il y a des CV qui sont arrivés, qui a dit je pourrais être Atman à la place d'Atman, et j'ai envie de considérer ces CV, forcément.
C'est facile. Écoutez, j'ai eu une longue nuit, j'ai regardé le débat hier, qui m'a pris la tête après, j'ai réfléchi.
Ah, ça va être la faute du débat. Moins de débat, plus d'emploi. Allez, à tout de suite, le club des connoisseurs. Ils sont là chaque matin, curieux de tout, ouverts à tout, toutes les expériences, toutes les informations, toutes les curiosités du monde les touchent. Ils sont autour de cette table. Bonjour Marie Bonisseau,
bonjour.
Tout à l'heure vous allez faire votre revue de presse, mais a déjà titillé ce matin dans l'information ?
C'est une petite titille dans les pages santé du Figaro. On apprend que les appareils épilatoires sont dans le collimateur des autorités. Voilà, donc c'est un message pour tous ceux qui s'épilent. Il paraît que ça provoque des croûtes ou de l'acné.
Vous vendez du rêve,
c'est une information pratique. Et ça vaut aussi pour les appareils qui servent à mincir. Voilà,
très bien. Donc est-ce que l'idée de faire cette petite information dans le club des connoisseurs, c'est de marquer le côté un petit peu décalé, une info décalée, et le mot épilatoire est censé créer un truc au
niveau. Non, c'est pratique.
Elle
plutôt.
Y va fort.
Je sais que souvent les gens s'épilent à 7h05 du matin, c'est pour ça que.
C'est un petit service. C'est le service Nova à l'auditeur.
De rien.
Très bien, je vous remercie. Donc soyez très vigilants sur tout ce qui est épilation, comme Thomas Baumgartner qui lui a puisé ce matin dans quoi ?
Dans le Libé de ce week-end en fait.
D'accord, on est déjà... Il faut, du temps pour digérer la presse.
Et absolument.
Vous auriez pu mentir, dire que c'était ce matin.
Non, mais en fait, il faut savoir que maintenant, quand on publie quelque chose, c'est disponible. Quoi. Voilà. C'était ce week-end, mais c'est maintenant, c'est tout le temps.
C'est donc peut-être en ligne, tout simplement.
Vraisemblablement, voilà, comme on dit de temps en temps. C'était un ancien hôtel particulier au 16 rue de la Goutte d'Or. On s'y installait de proche en proche, une amitié qui en pousse une autre. Il y avait un grand salon, une cheminée en état de marche. On pouvait marcher sur le toit et y pique-niquer. Ça avait beaucoup de charme. C'était grand, modeste, délabré, profondément agréable, agréable à vivre pour y être heureux. Et ça, c'est un chef opérateur qui dit ça, Jean-Claude Larieux, qui a vécu dans cet hôtel particulier à la Goutte d'Or, à Paris, entre 68 et 87. Il y était, il a partagé cet hôtel particulier avec, selon les périodes, avec Bernard Faucon, Hervé Guibert, Christian Louboutin, Christian Cojol, Claude Lévesque, voilà des noms qui sont donnés par l'article de Didier Perron dans ce Libé de ce week-end. Et il y a une grande photo, voilà, c'est le commentaire d'une photo. On voit deux jeunes hommes sortir d'un coffre en bois.
Vous voulez parler de nostalgie de vie communautaire, non. Un peu comme dans la chanson de la Maison Bleue accrochée à la colline, non. De Maxime Le Forestier.
Il y a un petit peu de
San
ça,
Francisco.
Mais en fait, il dit un peu plus tard, Jean-Claude Larieux, que d'abord, l'hôtel particulier a été détruit, pour faire place, évidemment, c'est l'urbanisme à Paris. Et puis, il dit, voilà, certaines de ces personnes ont disparu. Et par contre, puisqu'il reparle de cette photo avec ces deux jeunes hommes qui sortent de ce coffre, il dit, par contre, le coffre, je l'ai toujours. Et moi, c'est cette phrase-là qui m'a ému, quoi. Le coffre, je l'ai toujours. Il y a plein de choses à l'intérieur de ce mot-là. Le meuble est là, le meuble demeure. L'hôtel particulier a disparu, il y a des amis qui ont disparu. Mais le coffre, je l'ai toujours. Il y avait quelque chose à la fois de poétique et puis de mélancolique et d'éternel aussi dans cette phrase-là. Voilà.
Vous me disiez aussi un jouet qu'on jette, c'est un peu d'enfance qui s'en va.
C'est pas faux, j'ai dit, Thomas mais Bonga. Ça n'avait rien à voir, mais oui, c'est vrai, je l'ai dit.
Bien entendu, vous me disiez. Sinon, mais je comprends ce que vous voulez dire. Je croyais que vous vouliez essayer de faire une sorte de message un peu politique contre la famille bourgeoise catholique traditionnelle avec papa, maman et les enfants, de marquer que ces vies choisies, ces familles reconstituées dans des maisons, dans ces vies communautaires.
Vous dites ça aussi, ouais.
Voilà, mais j'aime, vous dites quelque chose et vous ne savez pas toute la beauté qu'il y a en
bien
vous.
Bien sûr, mais bien sûr. La radio, ça échappe.
Bien sûr, votre beauté vous échappe, Tito, votre beauté, vous en êtes conscient.
J'ai quelque chose pour les curieux, quelque chose de superbe.
Il y a Patrick Rambaud qui est déjà là, que je salue, l'auteur de Chronique d'une fin de règne. On l'a installé sur le canapé du fond, il commande pour le moment de la tête. Patrick, vous hochez la tête, vos hochements signifient quoi? Vous acquiescez ou vous êtes dubitatif?
Je me réveille un petit peu, là, petit à petit, en vous écoutant. C'est étonnant. Oui.
Mais écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre apport, bien sûr. Ce que je retiens, c'est le petit à petit. Et là, on est dans plutôt la partie petit.
Je vais y arriver, là.
Mais, quand vous voudrez, Patrick. Vous êtes notre invité d'honneur. Donc tout de suite, pardon, Tito.
Ouais, non, c'est pas grave. Quelque chose de curieux et de superbe, c'est l'accouchement de la femme à barbe. Alors, pour ceux qui veulent voir accoucher la femme à barbe, il faut qu'ils viennent le jeudi 30 mars à 20h au Ciné-Cité voir le film Freaks. Ils retrouveront tous ses petits copains, le Lilliputien, Hans, les sorcières moises, Hercule, l'homme le plus fort du monde. Et je vous encourage à aller à 20h le jeudi 30 mars, Freaks, le film de Todd Browning.
C'est un de vos films cultes et donc vous engagez les gens à aller le revoir.
Il y a l'accouchement de la femme à barbe, tu ne te rends pas compte si c'est beau ça, on la voit comme ça avec tous ses copains autour, en train de donner vie. Elle est mariée avec Hercule, la pauvre.
Est-ce que ça donne un bébé à barbe?
Vraiment, oui, bien sûr.
Va dans la pièce à côté, va prendre un café. Voilà, à tout de suite pour des infos plus. Moi, je voudrais qu'on suive un peu plus l'histoire de Robert Bourgi, l'homme qui a payé les costumes de François Fillon, parce que c'est pas simplement qu'on ait fait un cadeau de costume à François Fillon, c'est anecdotique, c'est un personnage stupéfiant, c'est les restes de la France-Afrique, c'est les restes des réseaux Focard, c'est-à-dire de tous ces conseillers obscurs des présidents africains qui ont été mis en place par De Gaulle après la communauté française, après l'indépendance des pays africains, et Robert Bourgi étant l'héritier de tout ça, c'est très très étonnant que ça soit cet homme-là qui a fait des costumes à Fillon. C'est pas juste un avocat, c'est un homme qui appelle le fils Bongo mon frère, qui appelle tel autre président papa. Enfin, c'est quand même c'est un vieux monde qui revient.
Et que certains dictateurs appellent papa aussi.
Oui, tout le monde s'appelle papa. Bon, moi, c'est un petit peu plus étrange que ça quand même, cette affaire des costumes. À tout de suite.
Nova. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même.
Sexy Sushi s'en prend aux pommes. Bon, voilà, je crois qu'il y a toujours eu certains groupes musicaux avec certains fruits, des conflits, des combats. Ça pourrait être, voilà, je sais que des groupes s'en prennent aux pêches, aux prunes. C'est pas, il n'y a pas non plus. Tout ça va s'arranger. Bonjour Charlène.
Bonjour Edouard.
Charlène, je vous avais demandé de préparer un son autour du printemps. Ça vous a inspiré quoi, le printemps?
Eh bien, une petite ode
oui. composé plusieurs voix de gens qu'on aime bien, qui eux-mêmes célèbrent le printemps.
Vous croyez au rythme des saisons, Charlène ?
Je crois à beaucoup de choses.
On va écouter.
L'air est pur, tout est calme, je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Regarde comme il fait beau, dehors, c'est l'heure pour aller jouer.
Tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletants. Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps.
Hé, hey, dame nature, que vous en est nénie grâce à vos yeux ? Opterez-vous pour un printemps gracieux ?
Toi, petit insecte subtil, la vie est comme l'onde,
mais que vous en est nenni ?
Je suis content, c'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire, quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air, je suis content, c'est le printemps, les arbres sont en couleur.
Merci Charlène, vraiment c'était rafraîchissant. Qui fallait-il reconnaître par ordre d'entrée en scène ?
Gérard Depardieu, Rachida Brakni, Simon Astier, Aurélien Portehaut et Henri Dess.
Je vous remercie, c'est vraiment le printemps. À tout de suite, bravo.
Edouard n'est pas là, il a eu une panne d'oreiller, mais je le remplace maintenant, tout va bien. Alors les infos de Thierry Paré.
Décisif, pas certain. Danse, sérieux, animé, pédago, oui ça c'est sûr. Pendant 3h24 hier soir, les prétendants, censés être les 5 principaux à l'Élysée, ont débattu en direct à la télévision. Difficile évidemment de résumer 3h24 de débat en quelques secondes. En tout cas, selon un sondage Elab, c'est Emmanuel Macron qui a été jugé le plus convaincant.
Mais vous dites difficile, quand on dit quelque chose est difficile, ça veut dire qu'on va le tenter après. Vous dites difficile pour dire que vous n'allez pas le faire.
Non, bah voilà exactement. Ah, voilà. C'est trop difficile pour le faire, pour pouvoir être fait par n'importe qui d'ailleurs. Emmanuel Macron a donc été jugé le plus convaincant à hauteur de 29% des téléspectateurs. Il arrive devant Jean-Luc Mélenchon, 20%. Ensuite, on trouve François Fillon, Marine Le Pen, 19% et Benoît Hamon, 11%. Avant qu'il ne devienne ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux aurait fait signer, entre 2009 et 2016, 24 contrats de collaboratrice parlementaire à ses filles dès l'âge de 15 ans, lorsqu'elles étaient encore lycéennes, à des moments où parfois elles étaient en stage ou à l'école. Selon Bruno Le Roux, il s'agissait de boulot d'été. Quoi qu'il en soit, il est convoqué aujourd'hui devant le Premier ministre. La présidente destituée de la Corée du Sud, Park Jung-hi, est entendue aujourd'hui, mais avec le décalage horaire, ça donnait dans la nuit, en fait, par les magistrats du parquet sur le retentissant scandale de corruption et de trafic d'influence qui a précipité sa chute. Martin McGuinness, ancien député, vice-premier ministre de l'Irlande du Nord, principalement connu pour avoir été chef de l'armée, est mort à l'âge de 66 ans. On n'en sait pas plus pour l'instant. Londres déclenchera le Brexit le 29 mars en activant l'article 50 du traité de Lisbonne. Le gouvernement britannique de Theresa May lancera donc officiellement son divorce avec l'Union européenne. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'année 2016 a battu un nouveau record de chaleur. Le réchauffement a affecté tous les compartiments du climat, de la hausse du mercure à l'élévation des océans en passant par la chute des surfaces de la banquise. La centrale nucléaire de Flamanville est totalement à l'arrêt. Le réacteur numéro 2 a été arrêté hier à la suite de la détection d'une fuite d'eau sur un circuit situé dans la partie non nucléaire. Un incident avait déjà provoqué l'arrêt le mois dernier de l'autre réacteur de la centrale. Une fusée Ariane 5 devait décoller ce mardi, ça ne sera pas le cas. Des salariés du centre hospitalier de Kourou en Guyane sont en grève. Ils s'inquiètent de l'avenir de leur hôpital et pour se faire entendre, ils ont érigé un barrage à l'entrée du centre spatial guyanais. Elle était la grande figure de la danse contemporaine, la chorégraphe américaine Trisha Brown. S'est éteinte au Texas à l'âge de 80 ans. Trisha Brown a créé plus de 100 chorégraphies et 6 opéras avant de quitter la scène en tant que danseuse. C'était en 2008.
Alors, les bonnes nouvelles alors.
La bonne nouvelle ?
Non, parce que là, alors le truc des fils roux, là, ça m'intéresse.
Vrai,
comment
vrai.
Ça se passe? Attendez, vous êtes comédiente, mais je voudrais qu'on reconstitue la scène. Alors,
papa,
alors, oui, alors allez-y. Donc, oui, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie?
Papa, je voudrais un emploi fictif. Si
non, non, faites pas de. Vous dites, faites vraiment comment ça se passe sincèrement dans les familles quand on cherche un stage pour l'été. Ne mettez pas tout le temps de. Ne soyez un peu affectueux
non, papa,
avec la famille
papa,
roux.
Je vous donne l'argent de poche.
Non, je pense que c'est pas comme ça.
Mais c'est comment alors?
Oui, j'arrive pas à trouver un stage. Bon, on va t'en trouver un.
Oui, parce que. Mes copines en ont un et moi non. T'es quand même président du groupe socialiste.
Bon, allez, d'accord, je t'engage. Vous voyez ce que je viens de dire.
Et sa fille a dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a 16 ans.
C'est magnifique, c'est la boum, c'est Claude Brasseur, c'est Vic, c'est Sophie Marceau, dont vous êtes le portrait de Sophie Marceau.
Sophie Marceau.
Météo de Tito.
On va fêter les Clémences, les Clémentines, les Clémenceaux, les Clément, Cléonice, Clancy, Clémentia, les Clarence, les Collines, etc. Il fait soleil du Brest jusqu'au Havre et de Nice à Perpignan. Ailleurs, c'est couvert où il pleut. Les températures seront à Agen de 4 à 12, à Avignon 21 à 7, à Bordeaux de 4 à 12, à Brest de 4 à 10, Dreux de 2 à 10, Laval de 3 à 11, Metz de 2 à 11, Nantes de 5 à 12, Paris de 2 à 11, Saint-Étienne de 2 à 13 et Pékin de 7 à 16. Lailo, 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 lailo,
lailo, lailo, lailo, lailo, lailo, lailo, lailo, lailo, lailo,
lailo, lailo, lailo, lailo. J'étais au marché Victor Hugo, là j'ai trouvé une petite place derrière un petit marché bio. J'ai rencontré un oignon sous un camion, ça m'a fait rencontrer Angélique qui m'a dit « mais c'est mon oignon !» Parce que je le reconnais, je le reconnais. Ensuite, en face de moi, il y a Claude Nougaro, qui est pas très grand, mais il parle pas beaucoup, il est dans sa statue. Et puis je suis avec Virginie, bonjour Virginie.
Bonjour.
On parlait de c'est quoi, qu'est-ce que c'est parapluies, c'est quoi, non, c'est
des parasols. Oui, des parasols.
Des parasols, ils sont bien, ils sont grands, ils sont un peu chers, et puis ils n'y tiennent pas au vent.
C'est vrai qu'il faut les accrocher, sérieusement. Ouais.
Et puis Angélique, elle n'a plus de bancs non plus.
Non, elle a des fleurs à la place.
Ils ont piqué son banc, parce qu'en fait, il y a eu la cérémonie, je crois, de commémoration des attentats sur cette place. Donc il y a des fleurs avec des rubans multicolores, et puis un marché bio qui s'installe avec de la bonne roquette.
Avec le général Charles de Gaulle.
Il y a Charles de Gaulle, il y a des cèdres. Où est-ce qu'on est ?
On est derrière la place du Capitole, ouais. Qui s'appelle le Square Charles de Gaulle.
Et de l'autre côté, il y a le marché Victor Hugo.
Et un peu plus loin, oui, le marché Victor Hugo.
C'est magnifique tout ça. Et le boulanger vient d'arriver.
Ouais.
Oui, vous allez.
On va avoir du bon pain, bien frais.
Ah. Angélique, bonjour.
Ah, moi, c'est Virginie.
Oh, c'est pas vrai ! C'est Virginie !
Virginie, qu'est-ce que vous pensez du fait d'être appelée Angélique ?
Rien, pas de commentaire. Ça me dit, voilà.
C'est la première fois que ça vous arrive ?
Oui.
C'est une expérience troublante ? C'est une expérience neutre ?
Oui, on va dire neutre.
Ça vous est jamais arrivé qu'on vous appelle par d'autres prénoms ? Bernard, si. Françoise, si.
Papa Bernard,
non.
Hein, quand même, parce que je suis quand même bien, j'ai des beaux attributs quand même, donc on ne va pas me confondre avec un mec quand même.
Mais vous êtes très attaché à votre prénom ? Vous savez pourquoi vos parents l'ont choisi ?
Oui, je sais pourquoi.
Vous pouvez nous le dire ?
Mon père s'appelle Paul.
Ah bah oui, Paul et Véronique.
Non.
Virginie, à le roman de Bernardin de Saint-Pierre, bien sûr.
Paul et Angélique.
Paul et Virginie, bien sûr. Donc votre père a peut-être voulu faire une chose assez étrange, c'est de donner à sa fille un prénom qui ferait couple avec le sien. Est-ce que ça n'est pas un peu troublant, ce choix de prénom par votre père ?
Là, c'est... ça va très loin, 7h30 du matin, là.
Alors que dès 8h.
Hein.
Et la roquette, elle est bien, la roquette ? Une autre question complètement.
On peut mettre le nez dans la roquette pour en parler, Virginie.
Par exemple.
Il y a du monde au marché.
Non, j'ai encore du travail, là.
Le marché est ouvert ou pas ?
Il ne va pas tarder, je ne suis pas prête. Hein. Ah,
bon, bah, écoutez, Thierry va un petit peu vous aider pour la mise en place, qui s'appelle Jack.
Il s'appelle Jacques, d'accord.
Merci.
C'est bien, c'est Jacques. Il y a Claude Nougaro qui s'anime là-bas, il commence à marcher.
Merci, à tout de suite. Quand les Virginie s'appellent Angélique, quand Jacques s'appelle Thierry, quand Claude Nougaro n'est plus qu'une statue, quand les identités des uns et des autres deviennent abstraites, quand l'inconnu est à plusieurs chiffres, la vie renaît au marché Victor Hugo à Toulouse. Les poireaux sont sortis, les oignons étincellent, les yeux pleurent. C'est ce matin, à Toulouse.
Toulouse, j'ai trouvé un saucisson génial.
Patrick Rambaud, oui.
Oui, non, j'ai trouvé un très bon saucisson au marché Victor Hugo de Toulouse.
Quand ça, Patrick Rambaud ?
Il y a bien longtemps, mais je m'en souviens encore.
Je vous remercie de nous faire entrer dans votre intimité d'écrivain.
N'est-ce pas ?
À tout de suite, on va vous retrouver pour vous interviewer avec mon camarade Baumgartner.
Quelle horreur.
Pour les chroniques du monde. Tu vas prendre cher, à tout de suite.
7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, Edouard Baer.
Ça me rappelle rien.
Voilà, le grand écrivain Patrick... Vous aimez bien que je dis grand écrivain ?
Oh, j'adore ça, surtout quand c'est toi.
Voilà. Mais... Et s'est approché du micro, il est sorti de son canapé, ouais. Parce qu'on va parler, cher Patrick Rambaud, avec Thomas Baumgartner, ouais. Des chroniques d'une fin de règne.
Ah bon, c'est une drôle d'idée. Oui, je me demande comment je suis arrivé dans ce tripot.
Cette histoire de parler de politique ou ici à Nova ?
Quel tripot ?
Ici, oui. Ah, ici, oui. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, oui.
On a dû vous donner l'adresse à un moment donné, oui, effectivement. Allez-y. Patrick Rombaud, vous publiez. C'est un huitième tome, on va essayer de rester calme. Oui. Chronique d'une fin de règne, le premier date d'il y a presque 10 ans maintenant.
Et oui, c'était il y a 10 ans.
Chronique du règne de Nicolas Ier.
Oui, j'avais été invité à Libé voir les résultats des élections d'il y a, de 2007. Mm-hmm. Il y avait un gigantesque écran. Et quand j'ai vu apparaître la tête de Sarkozy, j'ai eu très peur. J'ai marché 3 heures dans la ville pour rentrer chez moi, un peu groggy. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. À ce moment-là, c'était impossible de rester. Et du coup, j'ai eu cette idée de refaire ce qu'avait autrefois écrit dans le Canard enchaîné La Cour, vous savez, d'André Ribot. Et puis, j'ai proposé ça chez mes camarades de Grasset. Et ces imbéciles m'ont dit oui.
Alors, c'est pas malin.
C'est pas malin. Alors, j'ai dit, vous êtes sûr, vous croyez, parce qu'il y aura plein de livres sur Sarkozy. Ça me paraît très curieux. Et il m'a dit, vas-y, essaye. Et puis, c'est parti, c'était fait. Et on en a vendu des tonnes.
Trop ?
Hein, trop, jamais. Non, trop.
Jamais.
C'est mon métier, monsieur, j'espère.
Vous vivez de votre plume, cher maître.
Je vis de ce que je peux, monsieur.
Vous avez commencé avec Nicolas Ier, puis il y a eu François IV. Dit le petit.
Voilà, oui.
Voilà, donc vous avez recréé une cour, mais finalement, la parodie ne déforme pas trop la réalité. C'est ça qui est troublant d'une certaine manière dans cette chronique au jour le jour, hein, parce que ce dernier tome, on est quasiment. Voilà, ça se termine au moment où François IV doit parler à la télévision et annoncer qu'il ne sait pas. Il a dit.
Je vous remercie d'ailleurs d'avoir abdiqué, ça me fait une fin épatante.
Il ne l'a pas fait exprès pour vous.
Je crois que si. J'ai eu le vent que, en effet, c'était...
Vous avez hésité, tu as hésité, après Sarkozy, à continuer avec François Hollande ? Ou c'est évident que ce serait aussi un sujet...
Ah non, j'ai laissé passer 2 ans, j'ai écrit autre chose, parce que je disais, il faut laisser la chance à ce garçon, quand même. Et déjà, dans le dernier, il y avait le passage de relais entre les deux. Bon, je dis, soyons sympas, voyons ce qu'il arrive à faire. J'y croyais pas une seconde, mais je me suis dit, on sait jamais. Et puis, vu tout ce qui s'est passé...
Parce que Patrick, il faut un degré d'indignation assez fort pour tout à coup tenir ses chroniques de
règne. Il faut pas mal de doc. Hein, tous les matins, je lis tous les journaux. C'est une tâche horrible. Et il faut tout découper, faire des archives et tout.
Ça salit les doigts.
Ça, c'est pas ça, mais ça encombre. Mm-hmm. Chez moi, je marche en biais depuis.
Oui. Parce que pour salir les doigts, la confiture aussi, à ce compte-là, si vous voulez.
Oui, mais c'est une documentation qui va un peu moins loin.
Oui, mais enfin, l'encre, c'est de la salissure noble.
Bah oui.
Attention, j'aime bien cette conversation. Moi, je suis assez content. Je suis assez content de cette conversation. Le débat d'hier, vous n'allez pas du tout le chroniquer. Vous l'avez vu comment, Patrick ?
Je l'ai vu en somnolant un peu, parce que c'était assez soporifique, finalement. C'était pas si drôle que ça. C'était très long.
Mais est-ce que ce n'est pas justement un des défis de cette série-là, Patrick Rambaud, c'est de donner du lyrisme, de donner du souffle à une histoire qui en manque. Et d'une certaine manière, c'est ça qu'on comprend en sous-texte, c'est que l'époque manque de souffle et de lyrisme. Et vous arrivez, d'une certaine manière, vous, donnez, vous faites le pari d'une postérité qu'on n'aura peut-être pas.
Oui, mais il ne manque pas de ridicule. C'est-à-dire qu'au début, les gens me disaient, ceux qui l'avaient lu, me disaient « Ah ben, on avait complètement oublié tel épisode, tout ça ». Donc, c'est pour pas qu'on oublie, en fait. J'ai écrit ce truc-là. Il y a tas d'éléments. Ça allait tellement vite. Les événements se chevauchent les uns les autres en permanence. Et les gens n'arrivaient plus à trier, quoi.
Et comment donc ça supporte le temps, justement ? Et le premier tome, comment il se relie ?
Il faudrait les lire les 8 à la suite. Ce serait assez amusant. Moi, je n'ai pas le courage.
Mais vous avez parlé de ceux qui ont lu votre livre, ce qu'ils vous en disent. Qu'est-ce que vous en disent ceux qui ne l'ont pas lu ?
Alors, ceux qui ne l'ont pas lu n'aiment pas, forcément. Ouais. Je me suis retrouvé, c'était en 2008, devant environ un millier de sarkozistes à la Baule.
C'était
un rendez-vous. Et il y en avait 2 qui n'aimaient pas et qui ne l'avaient pas lu. Donc voilà, ils ont une idée a priori.
Est-ce qu'on tombe par hasard sur un rendez-vous de sarkozistes à la Baule ou est-ce que c'était un vice en vous ?
C'était une invitation où je suis allé comme un traquenard un petit peu, voir un peu ce qui se passait. C'était très étrange. Il faut y aller dans ce cas-là. Il faut voir ce que c'est de près, quand même.
Vous parlez aussi, vous parlez évidemment, Patrick Rambaud, à travers ces personnages et cette, cette chronique-là, entre une parole du duc d'Evry et du duc de Bordeaux, c'est comme ça que vous nommez Manuel Valls.
Chacun a son duché,
chacun a son duché. Il y a des barons,
il y en a quelques-uns.
Vincent Bolloré est un baron.
Il n'a pas de bûcher, c'est pour ça.
Voilà. Et donc, vous parlez, vous avez des sources que vous. Voilà, tout d'un coup, on parle de l'ethnologue Pierre Clastres, on parle du philosophe Bertrand Russell, on parle de Jonathan Swift. Vous faites appel à
Des amis.
À des amis à vous, qui ne sont pas dans les journaux, mais qui sont dans votre bibliothèque, j'imagine.
Oui, ils sont dans mon souvenir aussi. Mm-hmm. Pierre Clastres, on avait beaucoup parlé de Pierre Clastres dans Actuel autrefois.
Oui, le journal, oui.
Bah ouais, le journal, oui, le célèbre journal. Oui.
Et Bertrand Russell aussi, qui était un pourfendeur des religions. Un
peu voilà. Des gens qui se couchaient à l'heure où je me suis levé ce matin. Quoi.
Oui, je sais, vous nous en voulez encore de vous avoir réveillé ce matin.
C'était un peu difficile après le débat d'hier, qui était un peu endormant d'ailleurs. Ouais. Qui n'était pas très rigolo ce débat, il était un peu platouille.
Vous vouliez vous marier. Il y a des débats qui... On n'a pas la chance d'avoir Georges Marchais en 1979
c'est dommage.
Tous les jours.
C'est dommage, on aimerait bien revoir Georges Marchais.
Il y a des choses formidables sur Internet. Avec
surtout quand il prend le genou de son voisin, qui avait une jambe articulée en plus à l'époque.
Ah oui, je me rappelle pas du tout qui avait. Moi, je me rappelle juste quelqu'un qui m'avait dit Georges Marchais, qu'est-ce que, comment vous justifiez l'invasion de Prague ou je sais plus à l'époque ce que c'était par les chars soviétiques. Ouais. Il avait dit, écoutez, il y a en France, il y a 2 millions de travailleurs qui ne gagnent pas assez. Et l'autre dit, c'est pas ma question. Non, mais c'est ma réponse.
Oui. Il était très bien.
Mais est-ce que Patrick Rambaud, vous écrivez sous cette forme-là, ces chroniques de fin de règne de notre époque, vraiment au jour le jour, époque politique. Voilà, on reconnaît, on s'y replonge pour donner une chance à l'époque, pour lui donner une chance de pouvoir éventuellement l'aimer.
J'ai pas cette impression. Enfin, moi, j'aime pas trop. Hein.
Non, justement. Mais est-ce que l'écrire comme ça, par ce prisme-là, c'est une manière de se dire, voilà, je vais quand même la saisir.
C'est pour mettre quelques ridicules en relief, c'est tout. Hein. C'est guère plus que ça, finalement.
Pas de grandeur, juste de la ridicule. Ça ne rehausse pas les choses.
J'ai pas l'impression. Enfin, c'est pas...
Ben, malgré vous, peut-être un
bon,
peu.
Bon, s'il a vu ça comme ça, c'est épatant. C'est épatant, j'y pensais pas du tout.
Mais il y a une limite style-là.
Il y a la limite.
C'est
normal.
C'est parce que vous traitez justement de ces derniers mois, ces 2 dernières années, grosso modo, et puis arrive le moment des attentats.
C'est 13 novembre. Drôle, c'est assez...
Mais non seulement c'est moins drôle, mais effectivement, là, tout d'un coup, on se peut se dire que la réalité dépasse ce qu'on peut en faire avec de la fiction. Ouais. Et là, finalement, vous êtes chroniqueur sans filtre.
Les 2 dernières années, ce n'est que ça. Mm-hmm. C'est rythmé uniquement par des explosions de connards. Donc ça, il y en a plein, c'est tout. Je suis obligé d'en rendre compte. Mm-hmm. Mais bon, le camion de Nice, ce qu'on peut dire, c'est que les camions sont interdits de passage sur la Croisette en temps normal. Alors ce camion, bizarrement, qui pèse combien, 5 tonnes ou 6 tonnes, il est passé 11 fois en 4 jours. Et c'est là où il y a le plus de caméras à Nice. Et personne n'a remarqué qu'il y a un énorme camion qui passait dans les caméras. Donc il faut le souligner, des petites choses comme ça.
Vous basculez dans le conspirationnisme, Patrick Rambaud.
C'est pas du conspirationnisme, ce sont des évidences, c'est des choses qu'on voit. Et c'est ça le problème, c'est de mettre en évidence des choses qu'on voit et dont on ne parle pas. Oh, c'est pas mal ma formule, tiens, c'est intéressant.
Au débat hier, il en a parlé.
Batman, oui.
Oui, au débat hier, Amand en a parlé, de, justement, des caméras de Nice, et François Fillon est allé au secours d'Estrosi.
D'Estrosi, oui. Estrosi est venu au secours de Fillon.
Ah, aussi, les deux.
En tant qu'auteur, Patrick Rambaud, cette série-là, qui est une série à part, dans la multitude de ce que vous avez écrit, est-ce que cette écriture, cette parodie dans l'écriture, est-ce que c'est une manière d'écriture un peu totale? C'est-à-dire que vous pouvez parler du présent quasiment, vous avez un style, on est à la fois dans l'histoire et dans l'actualité, dans le rocambolesque, dans le rire, il y a quelque chose d'un peu total. C'est ça qui vous plaît aussi, au-delà du fait que ça marche en librairie?
Mais il n'y a pas que ça, oui. Non, non, ce qui est amusant, c'est de parler d'une façon un petit peu surannée et enjolivée de faits un peu plats, justement, un peu cons. Donc c'est le décalage qui m'amuse. Parler noblement de conneries. C'est agréable.
Patrick Rambaud, je sais à ce sujet que vous avez un libraire qui doit récupérer des livres chez vous.
Vous avez tout.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de livres dont vous vous débarrassez?
J'en reçois beaucoup trop.
Oui, c'est beau, quelqu'un qui j'en reçois trop. On m'a tout donné juste avant l'envie, vous parlez comme Johnny Hallyday.
Mais non, je ne peux pas tout garder. Les murs ne sont pas extensibles.
Donc vous fourguez tous les ans une partie de votre bibliothèque
j'en redonne une partie.
On peut parler de dons ou on peut parler de vente?
Il me donne un chèque à la fin.
C'est bien, c'est la deuxième
catégorie. C'est très bizarre, mais ouais. C'est parce que j'ai voulu. Michel Tournier avait fait ça il y a très longtemps. Il avait trop de bouquins, il ne peut plus marcher non plus chez lui. Et il y a un camion qui arrive pour l'emmener ses livres. Et puis le type, à la fin, lui donne un chèque. Et Tournier dit « Ah bon ? Parce qu'en plus, vous me payez pour me débarrasser de... »
C'est ce qui va vous arriver. C'est quoi vos mots préférés en ce moment ?
Mes mots ?
Oui.
Diable, j'en sais foutre rien.
Diable, c'est bien. Foutre, c'est pas mal aussi. Rien. Merci, cher Patrick Rambeau. Qu'est-ce qui vous aura aimé, Thomas ?
Je me demande si vous allez faire une fête pour les 20 ans de votre prix Goncourt.
Une fête, pourquoi faire ?
Mais pour célébrer.
Mais mon vieux, fêtez les choses, Rambeau.
Ah,
bon,
j'oublie.
Est-ce que vous êtes scrogneux ce matin ?
20 ans, c'est vrai, j'ai complètement oublié. 20 ans.
C'est vraiment, j'ai l'impression. Trop long.
Oui.
Vous avez quelques mois, ce sera au mois de novembre.
Ah, novembre 2007, oui, c'est vrai.
Oui. Mais oui, il a eu Goncourt, Rambeau, notre grand écrivain.
Pour la bataille.
Oh là là.
C'est notre grand homme, on va lui payer un coup de blanc. Merci, cher Patrick.
Merci, cher.
C'est chez Grasset, c'est cette magnifique série, Chronique d'une fin de reine. Fallait-il que vous l'aimiez, votre Patrick Rambeau, Thomas Baumgartner ?
Ah, mais oui, mais on l'aime bien, c'est pour ça.
Le jour de cette collection est tellement beau.
Je vous embrasse très fort, Patrick. À très bientôt. Salut.
À tout de suite.
7h, 9h, plus près. Plus près de toi.
7h, 9h.
Mais c'est beaucoup trop court.
T'as gym ?
J'ai sport.
T'as sport aujourd'hui ?
Oui.
Et tu te changes ou pas ? Parce que moi, ma fille, ça m'énerve. Parce que parfois, elle n'emporte pas un rechange et ça m'énerve. Ça, c'est ta tenue de sport ?
Oui.
Mais si tu... Et après, tu n'auras pas une tenue pour te changer après le sport ?
Non.
Bah dis donc, c'est dégoûtant. Tu vas transpirer et tout.
Bah peut-être pas. Hein.
Bon, bah alors vas-y, mollo sur le sport. Comme ça, tu peux garder la même tenue. Tiens, je t'envoie un petit jingle, c'est bien.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Alors, tu t'appelles Stanislas ?
Oui.
Et est-ce que, par exemple, à l'école, il y a plein de gens qui t'appellent Stan ?
Oui.
Et t'aimes bien ou tu préfères en entier ?
Je préfère Stan.
Pourquoi ? Est-ce que c'est trop... C'est parce que c'est trop long, c'est fatigant d'entendre ?
Oui.
Oui. Et tes parents, ils t'appellent comment ?
Stan.
Ben voilà, alors ils prennent un prénom et après, ils le respectent pas eux-mêmes. Vraiment, je te jure, hein, les parents, il y en a... Tu trouves qu'il y a trop de parents sur Terre ou juste ce qu'il faut ?
Non.
C'est bien, c'est oui, bien les parents. Vrai. Qu'est-ce que t'aimes bien comme titre dans la famille aussi ? Des cousins, c'est sympa ?
Oui, les cousins, les cousines, mais pas les frères et les sœurs.
Non, ça non. Les tontons, les tatis, les oncles, les tantes, il y a quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme titre sympa ?
Il y a... Les papis, les mamies.
Oui. T'en as plein ?
J'en ai 4.
4, ça c'est bon, t'as tout le monde, c'est bien, la famille est au complet. Tu vas faire en vacances chez eux parfois ? Il y en a qui sont à la campagne, ils sont où ?
Il y en a qui sont à la campagne et il y en a là qui sont en train d'écouter.
Aïe, oula, faut faire attention.
À Paris.
D'accord. Et ceux qui sont à la campagne, c'est vers où alors ?
C'est vers Vichy.
Et là, ils t'emmènent faire des tours, ils t'emmènent te balader ?
Oui.
On fait quoi avec papy et mamie de Vichy ?
Ils nous emmènent nous balader.
Ils t'ont appris quoi ? Il y a la pêche
Non, pas la pêche.
Ils te font manger du gras ?
Non.
Ils font boire du vin, non ?
Non.
Ce n'est pas des choses qu'on peut... Des secrets, tu ne veux pas me dire un secret. Non. On est tous les deux, tu peux en profiter. Non. Alors, on écoute ton poème, mon cher Stan.
La mouche et la crème. Une mouche voyant une jette de crème s'écria. Quelle chance ! Ah, que cela me plaît ! Oh, délice ! Oh, bonheur extrême ! Des œufs frais, du sucre et du lait, un tendre arôme de vanille, rien ne met plus de douceur en mon cœur. Elle volette, elle frétille, elle s'approche, elle gambille sur le rebord, et c'est alors que sur la faïence trop lisse, la mouche glisse et succombe dans les délices de cette crème couleur d'or. Parfois, les choses que l'on aime sont des dangers. Il n'est pas toujours sûr que l'on puisse nager dans la meilleure des crèmes. Pierre Gamarra.
Super, bravo. On a appris un mot, moi je ne connaissais pas. Elle gambille, tu as dit ?
Oui.
Ça veut dire quoi, elle gambille ?
Je crois que c'est plutôt en argot, ça veut dire danser.
Ah oui, ça gambille, oui. Bah, dis donc, on l'emploie pas beaucoup. Alors, il y a un autre... Le monsieur qui est à côté de toi, là, si c'était quelqu'un de la famille, ça serait plutôt quoi, on dirait ? Plutôt un neveu ou... Tu peux... Plutôt quoi ? S'il était dans ta famille ?
Je sais pas.
Tu es beaucoup trop poli. Ça serait Papy Patrick. Papy ouais. Patrick Rambaud, vous avez un petit poème
oui,
aussi.
Oui, j'étais aussi un ancien enfant.
Oui, alors l'enfant qui est en voie, gardez un petit poème.
Un poème complètement con que je peux vous dire.
S'il vous plaît.
C'est toc, 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 qui frappe à mon carreau ? Ce sont trois grosses gouttes d'eau. Non, elle rit déjà.
N'entrez pas. Chut, s'il vous plaît. Non, alors, Stan, tu donneras une note au poème de Patrick.
N'entrez pas, madame la pluie. Votre visite m'ennuie. Allez plutôt dans le jardin, arroser le jasmin. Et la pâquerette, on n'entre pas dans ma chambrette. Hein, c'est bien. Hein
oh, c'est magnifique.
Ah,
c'est
bien,
magnifique
hein. Une note, Stan, tu donnes une note à Patrick Rambaud.
C'est magnifique.
Sur 10
10.
Mais non, pas 10, ouais. Pas 10. C'est bon que c'est. Non, c'est Stan qui a gagné.
C'est remarquable.
Merci, Stan. Bravo, Patrick.
Bravo, Patrick.
Allez,
c'est remarquable.
Le journal, mettez un petit intermède musical avant le journal. Un son, mettez quelque chose. Pardon d'interrompre Soumti qui ne m'en voudra pas parce qu'elle rechantera à d'autres occasions ici. Mais je me suis aperçu qu'il était 8h01 et il faut écouter le journal de 8h à 8h01.
Chaque année, l'Organisation météorologique mondiale, organisation onusienne, publie son bilan climatique. Résultat, 2016 a été l'année de tous les records. Le réchauffement en cours a affecté comme jamais auparavant tous les compartiments du système climatique, de la hausse du mercure à l'élévation des océans, en passant par la chute des surfaces de banquise. Dans certaines régions de l'Arctique, la température moyenne annuelle a excédé de plus de 3 degrés, la moyenne établie avant 1990. C'est le cas le long de la côte de l'Arctique russe, par exemple, mais aussi en Alaska ou encore dans le nord-ouest du Canada.
Ah non, pardon, non, au contraire, je me suis trompé.
Bruno Leroux est convoqué dans le bureau du Premier ministre ce mardi. Bernard, ouais, peut-être quelque chose, non
c'est ouais pas... ah.
Bernard Cazeneuve va recevoir le ministre de l'Intérieur dans le cadre d'une nouvelle affaire liée à des collaborateurs parlementaires. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne devienne ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux aurait fait signer jusque l'an dernier 24 contrats de collaboratrice parlementaire à ses filles, dès l'âge de 15 ans, à des moments où parfois elles étaient en stage ou à l'école. Selon Bruno Leroux, il s'agissait de boulot d'été.
Excusez-moi Thierry, vous savez, il va être reçu par le ministre Cazeneuve pour ça. Non mais vous imaginez, c'est absolument formidable. Ouais. Il y a un type qui est patron des députés socialistes français, qui est quelqu'un qui a fait 50 ans de carrière, il est convoqué chez le proviseur, ouais. Quoi. Dis donc,
ça,
mon petit, alors ça se passe comme ça. Dis donc, mon petit Leroux, qu'est-ce qui s'est passé? Non,
bah alors,
pas, dis donc,
mon petit Leroux.
Ma coco,
bah alors,
c'est
terrible, où sont tes parents?
Oui, c'est ça.
Il n'a pas été question des affaires hier soir lors du débat télévisé entre les 5 principaux candidats à l'élection présidentielle. Enfin, on va dire très peu question, parce qu'un tout petit peu quand même. Ce débat s'est étendu sur 3h24. Les candidats ont évoqué plusieurs dossiers. Bon, celui des retraites, de l'éducation, de la laïcité, la protection sociale, le rôle de l'État, le libre-échange, l'Europe, la place de la France dans le monde, l'immigration aussi. Selon l'Institut Elab, c'est Emmanuel Macron qui aurait été jugé le plus convaincant par 29% des téléspectateurs. Devant Jean-Luc Mélenchon, 20%. Ensuite, on trouve François Fillon et Marine Le Pen à 19%. Et en dernier, Benoît à 11%.
Et les autres, il est combien après ?
Bah les autres, au début du débat, ils ont tous évoqué l'idée que ça aurait été bien qu'ils soient là les autres.
Alors l'un des risques, c'est qu'on demande justement aux téléspectateurs qui était plus convaincant et qui cite des gens qui ne sont pas venus au débat. Ça montrerait quelque chose sur la politique.
C'est vrai, ça a été marrant.
Ça va trop loin. Tout ça.
La présidente destituée de Corée du Sud, Park Jong-il, a été entendue par les magistrats du parquet de son pays, bien sûr, sur le retentissant scandale de corruption et des trafics d'influence qui a précipité sa chute. Martin McGuinness, ancien député et vice Premier ministre de l'Irlande du Nord, principalement connu pour avoir été chef de l'IRA, est décédé à l'âge de 66 ans. Quel est le pays qui exporte le plus de viande au monde, notamment vers l'Europe ? C'est le Brésil. Et quel est le pays concerné par le démantèlement d'un vaste réseau de viande avariée ? C'est le Brésil. Il aura fallu 2 ans d'enquête pour que la police révèle l'existence d'un réseau de corruption présumé dans lequel des inspecteurs des services sanitaires recevaient des pots de vin de la part d'entreprises pour émettre des certificats destinés à des denrées avariées sans réaliser de contrôle.
Excusez-moi, je prends des nouveaux médicaments et tout m'enthousiasme. Ouais,
c'est génial.
Ouais, de la viande avariée. Donnez-moi des nouvelles des réacteurs nucléaires aussi.
Non, j'ai pas mis là. Oui, j'ai pas mis là.
C'était
cette fois,
mais j'ai
on en parlera tout à l'heure.
Qu'est-ce qui se passe ? Tout m'enthousiasme.
Non, par contre, on peut parler d'Ariane 5 hein, qui ne décollera pas aujourd'hui. La fusée devait transporter plusieurs satellites, au moins 2. Et ce n'est pas en raison des mauvaises conditions météo sur la Guyane. Non, pas du tout. Non, ce sont les salariés du centre hospitalier de Kourou qui sont en grève et qui ont érigé un barrage à l'entrée du centre spatial guyanais. Ils s'inquiètent de l'avenir de leur hôpital. Et en fait, ils ont choisi le centre spatial, ce n'est pas par hasard, et parce que selon eux, lorsqu'on parle de la Guyane, il n'y a que pour ce centre. Une des chorégraphes les plus acclamées et influentes de son époque, dont le travail avant-gardiste a changé pour toujours le paysage artistique, ce n'est pas moi qui parle ainsi, mais la compagnie Trisha Brown. La célèbre chorégraphe américaine Trisha Brown est décédée à l'âge de 80 ans, des suites, comme on dit pudiquement, d'une longue maladie. Trisha Brown a créé plus de 100 chorégraphies et 6 opéras.
Ariane 5 ne décollera pas. Alors que Ariane 1 est déjà dans les airs, alors qu'Ariane 2 volette, alors qu'Ariane 3 s'éclate là-haut dans les étoiles, alors qu'Ariane 4 a déjà à l'Uni, à Saturnie, à Marsy, elle s'est installée sur des planètes lointaines, Ariane 5 reste le bec dans l'eau dans son petit HLM de la banlieue. Là-bas, en Guyane, où la météo n'est jamais très clémente, entre pluie brûlante et sécheresse consternante, Ariane 5 s'ennuie. Elle a son petit chariot de supermarché. Elle regarde la nuit tomber, les étoiles, ses copines là-haut. Alors, un jour peut-être, Ariane 5 aussi prendra l'échelle interstellaire. Jacques Souvent, dans les rues de Toulouse.
Mais Ariane 5, moi je l'ai vu passer au-dessus de la ville de Cayenne. Ariane 5, c'est assez magnifique. C'est...
Non, 4, 3, c'est... 2, 1. On vient de vous dire qu'Ariane 5 n'est pas montée. Elle est peut-être montée sur le plongeoir de Kourou, comment ça s'appelle ?
Kourou.
Oui, bah, ne vous énervez pas pour une voyelle.
Et ne vous mettez, bah, vous mettez pas Kirikou aussi pendant qu'on y est.
Kourou, en Guyane, ils ont un dicton, c'est tout ce qui pique, on l'a.
Ah, c'est joli, tout ce qui pique, on l'a. C'est un beau dicton.
Le moustique, c'est-à-dire, et...
Bah les plantes, les araignées, les insectes, moustiques, ouais, les insectes.
Ça pique. Je continue. Et les Indiens d'Amazonie, ils te disent que quand ils regardent un arbre, il y a autant dans la forêt amazonienne, il y a autant d'yeux qui te regardent que de feuilles sur un arbre.
C'est très beau. Je pense qu'en plus, ça veut dire que tu es seul, que tu n'as personne à nous passer. Je le connais, mon Jacques Souvent. J'adore l'entendre. Ça fait plaisir de vous entendre, Jacques, un peu.
Non, mais vous savez, c'est parce qu'on est sur l'utopie avec Luc. On est sur un banc et Luc a une histoire un peu incroyable. Il était en train de lire l'utopie de Thomas More, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, Luc ?
Oui, c'est tout à fait exact.
Et donc, Luc a 21 ans, il vient de prendre... Je fais le commentateur. Luc a 21 ans, il vient de prendre un bus qui l'a amené ici de Valence à 6 heures. Et là, il attend un autre bus pour La Rochelle parce qu'il part faire un court voyage.
Oui, alors du coup, je pars de La Rochelle jusqu'à la Grande Motte sur un catamaran. Et j'espère que tout va bien se passer. Il faut savoir que j'ai quelques expériences en navigation. La première, c'était un naufrage. La deuxième, c'était un dématage. Et là, c'est ma troisième expérience, donc j'espère que tout va bien se passer.
Luc, tout ça m'a l'air très convaincant. Vous avez l'air en forme. Je pense que déjà, ce chemin pour arriver à votre bateau, Valence, Toulouse, La Rochelle, La Grande Motte, tombe sous le sens. On est déjà dans la logique géographique de la France. Qu'est-ce qui vous prend, mon vieux ?
Bah écoutez, il faut suivre cette logique, c'est tout.
Alors, est-ce qu'il y a un réseau secret de gens qui, à 6h30 du matin à Toulouse, lisent l'utopie de Thomas More, ou vous vous sentez seul avec ce livre lourd dans vos mains ?
Je pense que on sent le poids justement de ce livre, mais surtout après une nuit de bus, les fameux bus, les six bus où on n'arrive pas à dormir, où on tape sur le côté à chaque fois, on se fait réveiller.
C'est ce qu'on appelle donc, les bus compliqué. Macron, c'est ça, les bus Macron ou pas ?
C'est ça. Et puis les bus Macron, puis dans 10 ans les prix vont remonter et voilà.
Donc vous prenez le bus tant qu'il est abordable et après vous passerez à autre chose. Ouais. Après, ça va être le déclassement, ça va être très vite le vélo,
après,
puis le stop.
Après, de la navigation terrestre.
Puis les pieds, puis Jean Lassalle. Et dites-moi, alors là, vous allez faire du bateau pour le plaisir ? Vous êtes étudiant ? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Luc ?
Eh bien, du coup, en fait, j'ai un rêve, c'était de faire une traversée de l'Atlantique.
Oui.
D'où ces formations en navigation qui ont mal tourné. Et du coup, l'idée, c'est pour dans quelques années après, enfin, repartir et faire voyager vraiment en bateau et en vélo.
Alors, vous nous avez appris qu'en bus, on pouvait lire dans les bus. En bateau, en vélo, je pense que non, parce qu'il faut avoir les yeux sur la route. Et est-ce qu'on lit dans les bateaux quand on navigue ?
C'est possible. Maintenant, en fait, sur les bateaux modernes, on a le pilote automatique et du coup, tout est électronique.
Mais alors, autant pas monter dedans s'il se débrouille tout seul, si ?
Mais du coup, il faut quand même être vigilant à ce qui se passe. On a ce qui s'appelle les ovnis, donc objets flottants non identifiés.
Ouais.
Et ça, du coup, des fois, on ne le voit pas sur le radar. Enfin, il faut rester vigilant. Et même, après, il y a toujours tout ce qui est problème mécanique. Donc après, est-ce qu'on navigue pour la mécanique ou pas ? C'est ça qui...
Je comprends. Luc, vous insistez beaucoup sur cette idée de vigilance. Est-ce que vous pensez qu'il faut sécuritariser le monde ? Est-ce que vous pensez qu'il faut une police de voisinage ? Est-ce que vous pensez qu'il faut être vigilant aussi dans proximité ?
Bah, à la fois, il faut être vigilant, mais à la fois, il faut aller outre cette vigilance, justement.
Bien sûr. Un peu de laisser-aller, un peu d'abandon aussi.
Vous disiez pourquoi on se... Est-ce qu'on s'est vraiment rencontrés par hasard, parce que vous étiez sur le hasard?
Non, non, je ne vous ai pas demandé ça.
Pardon?
Bon, si vous voulez, je vous le demande, mais ne prétendez pas que je l'ai déjà fait.
Vous parliez d'objets flottants non identifiés. Moi, je trouve que vous êtes plutôt un objet marchand complètement identifié.
Superbe.
Vous parliez de hasard.
Oui, qu'est-ce que je disais sur le hasard?
Ah là, il y a un petit blocage.
C'est de très haut niveau.
Oui.
On est au top, les mecs. Et mec.
On avait commencé à expliquer le hasard. Est-ce que le hasard est vraiment le hasard, le fruit du hasard, ou est-ce qu'on peut le créer par rapport à vers quoi on se dirige justement?
Et alors vous provoquez vos hasards?
Eh ben, je sais pas. Enfin, je les provoque pas. Je suis juste ouvert au hasard. C'est la nuance.
Une vie de hasard, une vie de déambulation. Cher Luc, merci. On est content d'être avec vous. Mais il y a Atmen qui n'est pas du tout là. Je vais parler à Atmen parce qu'il est complètement largué ce matin. Luc, tenez-nous au courant de vos déplacements à travers la France. Ça me rassurera de savoir que ça va pour vous. Vous êtes bien chaussé?
Oui, c'est bon.
Très bien. Gros bisous. Je suis avec
Salut
Atmen.
Les gars.
Salut.
Atmen.
Oui.
Pendant cette conversation, j'ai vu... votre œil, j'ai pas vu l'œil éveillé, non. J'ai pas vu en vous le...
Petite somnolence.
J'ai vu l'œil torve, une petite somnolence. Hein, qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas, j'étais dans l'œil de M. Rambaud, là, qui me plaît beaucoup. Oui. Enfin, qui me plaît beaucoup.
Oui, j'ai bien compris, intellectuellement.
Intellectuellement, tout ça. Et il parlait de hasard, de bateau, et j'ai commencé à m'endormir.
Vous endormiez.
Il y avait la houle un peu.
Est-ce que vous pensez qu'une bonne émission matinale doit aider les gens à se rendormir aussi?
Un peu.
Oui.
Ça doit
Parce qu'on peut aussi, nous aussi, on peut faire de la bande FM. Hein. Allez, salut, qu'est-ce qui va? On y va, il m'en reste un petit peu, je vous le mets. Allez, vas-y, envoie un téléphone.
Oui,
allô, connasse, t'es chez toi? On t'emmerde. Allez, coupe.
7h, 9h, plus près de toi.
Oui, Edouard, enlevez-moi tout ça parce que je vous avais entendu comme moi, juste avant Carglass, là. La DS3, Inès de la Fraissante. Dis donc, mon chéri. Mais qu'est-ce qu'elle est, ta DS, elle est bien, elle a un truc un peu spécial, non?
Elle est vachement bien, cette DS.
Mais j'ai l'impression que c'est pas une DS3 normale.
Non,
qu'est-ce qu'elle a? C'est Inès de la Fraissante.
Évidemment, c'est hyper important.
C'est parce que j'avais l'impression que c'est une DS3. Salut, j'ai pris ma DS3. Pas du tout.
Pas du tout.
Ah non.
Il y a un petit plus, un petit côté chic.
Mais quoi?
Bah, Inès de la Fraissante.
Alors, c'est valable sur d'autres choses.
Ah bon, pardon.
C'est d'autres choses, par
saucisson.
Exemple. Mais dis donc, ton saucisson, je croyais que saucisson. Non, c'est un saucisson. Inès de la Fraissante. J'ai bien aussi, vous savez, pour les trucs, pour les toilettes, là. Le produit.
Non,
parce qu'il y a le truc un
chéri,
peu con dont
bouché,
on a.
Qu'est-ce que
oh, écoute, va me mettre un produit normal, un truc,
oh non,
là,
mais ça
qui nettoie.
Pas,
mais dis donc,
que...
ce produit m'a l'air beaucoup mieux que les autres, il nettoie mieux, il est plus raffiné.
Et puis les.
Inès de la Fraissante, merci. On se sent beaucoup mieux. François Rollin, vous êtes à Saint-Étienne?
Mais oui.
Bonjour,
ben oui.
François, vous loupez des très belles pubs en ce moment, c'est dommage.
Oui, ben je suis en train de les savourer par votre voix. Parce que là j'ai un ordinateur, moi, normal. Voulez-vous dire qu'un ordinateur Inès de la Fraissante, je me...
Ah oui, voilà. Oui, oh là, l'ami, les touches seraient visonnées, ça serait beaucoup plus soyeux au toucher. Dites-moi, François, vous animez des ateliers de comédiens pour des amateurs à Saint-Étienne?
Voilà, c'est pour des amateurs d'un quartier singulièrement défavorisé. Donc c'est une espèce d'action sociale, culturelle, je ne sais pas quel nom il faut mettre là-dessus. C'est en fait une initiative qui ressemble un peu à celle de nos amis du Zèbre et de Bleu Blanc Zèbre. C'est-à-dire, on fait quelque chose qui va un peu restaurer du lien social, de la dignité, de la diffusion de la culture, de l'égalité, de la solidarité. Voilà, donc on monte un projet avec toutes ces femmes, un projet théâtral.
C'est avec des femmes, vous avez fait des belles rencontres? Il y a des gens, des dames étonnantes?
Mais que des belles rencontres, oui, très étonnantes, des choses très vraies, en tout cas, voilà, on est loin de Paris à tous les égards.
Loin de Paris à tous les égards, c'est le titre de votre livre.
De mon livre, oui.
Aux éditions Guinness de la Fraissange. Cher François, est-ce qu'il y a quand même un animal au téléphone du mardi?
Oui, bien sûr, je vais vous parler ce matin de l'ours blanc et de l'ours polaire.
Oui.
Alors, je traite les deux simultanément pour la bonne raison que c'est le même, Edouard.
Ah oui.
C'est Ursus maritimus, qu'on l'appelle polaire ou blanc, c'est le même ours. Et alors maintenant, sans préambule, la révélation qui va tous vous laisser pantois et interdit. C'est un peu la même chose, hein, pantois et interdit, c'est pour ça que je traite les deux simultanément.
Oui.
Alors voilà la révélation. Vous êtes accroché à votre siège.
Oui.
L'ours blanc n'est pas une créature naturelle. Voilà. Ce ne sont pas les lois naturelles de l'évolution qui ont donné naissance à l'ours blanc. L'ours blanc est une créature inspirée par l'homme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à un moment de l'histoire, l'homme a créé, notamment à l'intention des bébés, des petits ours en peluche très mignons et tout blancs. Alors les ours naturels, qui étaient bruns, comme chacun le sait, ont fini par avoir connaissance de ces petits nounours blancs adorables. Ils les ont trouvés charmants, même craquants, et ils ont donc décidé de se mettre au blanc. Alors ils ont fait des bébés blancs, et ensuite les bébés blancs ont refait des bébés blancs, et voilà comment l'ours blanc est apparu sur la Terre. Ensuite, parce que vous voyez que l'histoire ne s'arrête pas là, c'est un peu haletant, hein.
Ensuite,
l'homme a repris la main grâce à François Pompon. Vous connaissez le sculpteur français, né en 1855 à Saulieu, qui a créé le fameux ours blanc en pierre de lance qui fascine tous les visiteurs du musée d'Orsay. Donc l'étape suivante est à venir. L'ours blanc, épaté et séduit par l'ours en pierre de Pompon, finira par créer, à l'horizon 2560 selon moi, une quatrième génération d'ours blancs entièrement minéraux. Alors maintenant, il va arriver le petit plus de Nova, mais j'aime bien que ce soit vous qui me le demandiez, Edouard.
Il y a un petit plus de Nova ?
Oh ben Edouard, oui. Edouard, oui. Oui, un petit plus, Inès de la Fressange. Alors écoutez bien. L'ours blanc mange des phoques, c'est vrai. Hein, bon, je ne vais pas dire le contraire,
il mange des phoques,
mais ce n'est pas par méchanceté. Il ne mange pas n'importe quelle phoque, il sélectionne ses proies. Il ne mange que les phoques qui ont vraiment mauvais caractère et qui font chier tout le monde sur la banquise. D'où la célèbre phrase de Bernard-Henri Lévy, l'ours blanc est un pacificateur de la banquise et en plus il est beau. Voilà.
Merci beaucoup François Rollin, c'est un très beau thème autour de l'idée de la nature qui imite l'art. Hein. C'est très beau ce que vous nous proposez en direct de Saint-Étienne. Saint-Étienne, la ville de Bernard Lavilliers, les anciens de Manu France, les monts du Forez, c'est cette belle région que je connais, que j'aime.
Et Pierre Gagnère, Pierre Gagnère,
le grand cuisinier, Aimé Jacquet, bien sûr.
Et la ville des Verts aussi.
Qui sont les plus forts, évidemment. C'est les Verts, on a les meilleurs joueurs et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez.
Ouais.
Salut François, à très vite. Donc, mettez des petites choses, regardez, vous voyez Manu, une petite chose agréable.
7h-9h, plus près de toi.
Nova, plus près de toi.
Ils ont la niaque ces jeunes.
Oui, tout à fait.
8h24, la revue de presse.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Non. Alors, c'est Marie Bonisseau.
Oui, c'est mieux.
C'est-à-dire, c'est mieux.
C'est différent.
Mais c'est mieux de le dire, de préciser.
C'est mieux de dire son nom, parce que Marie Missé, de temps en temps, c'est Marie Bonisseau. Voilà. Et de même que parfois, Edmond Kalif, il n'est pas réveillé.
Voilà. Alors, moi, j'ai appris un mot dans la presse ce matin, c'est la tératologie. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire.
Il y a
le mot
terre. Moi, je ne savais pas. Vous saviez, Thomas, il sait sûrement.
L'étude de la terre, non ?
Non, avec un seul R. En fait, la tératologie, c'est la science des monstres. Gaëtan Schmitt, non plus, ne le connaissait pas. Ce mot, c'est son père qui lui a appris il y a longtemps, quand il avait 12 ans. Gaëtan, lui a-t-il dit, tu relèves de la tératologie. Gaëtan est intersexe, on dit aussi hermaphrodite. Micropénis, vagin rudimentaire, il ne fabrique pas d'hormones. Mes parents m'ont élevé comme un garçon, raconte-t-il dans Libération. Mais ils ont ménagé la possibilité que je sois une fille, à la différence de mes frères. On me faisait faire la vaisselle et la cuisine. À l'adolescence, Gaëtan crie non à un hypnotiseur qui lui demande s'il est un garçon. On lui conseille de se muer en femme, mais il comprend que ça ne changerait rien. Masculin, féminin, dans tous les cas, ça n'était pas moi. Âgé de 66 ans, aujourd'hui, Gaëtan Schmitt se bat pour que son vrai soi soit reconnu par l'État, à l'État civil. Sexe neutre, ça n'existe pas, cette mention, chez nous, en France. Pourtant, ça concernerait 200 bébés chaque année et la Cour de cassation se penche aujourd'hui sur la requête de Gaëtan Schmitt. Ce qu'il faudrait, estime Philippe Régnier, un spécialiste du genre interviewé dans Libé, c'est carrément supprimer toute mention de sexe. Certes, elle ne crée pas les discriminations, mais elle les accentue. En attendant la décision des juges, Gaëtan compose avec ce genre qu'il n'aura jamais choisi. Du choix. En revanche, il y en a enfin pour les électeurs français. Laurent Geoffrin, toujours dans Libé, se réjouit que le débat télévisé d'une indéniable qualité ait tracé un carrefour à quatre voix bien distinctes. Chacun des cinq candidats à la présidentielle a pu expliquer son projet hier soir, Geoffrin mettant Hamon et Mélenchon dans le même sac, celui de la rupture sociale écologique. Le Parisien, lui, a décidé de mettre des notes à chacun. On félicite le petit Jean-Luc Mélenchon qui décroche la meilleure note, un 7 sur 10 pour ses punchlines. Une verve précieuse qui lui a permis de se distinguer de son rival socialiste, reconnaît Guillaume Tabar du Figaro. un éditorialiste qui relève au passage aussi les compliments adressés par Emmanuel Macron à François Fillon, compliments mortifères qui empêchent François Fillon de se démarquer de son jeune rival En Marche. Il n'en restera qu'un, la compétition est féroce entre les êtres, rajouter un H, et c'est tout le contraire, les êtres, ceux de la forêt, ont le sens de l'entraide comme tous les grands arbres, nous raconte un formidable forestier allemand, Peter Wollenben, interviewé dans le Figaro. Les êtres ont le sens de la famille aussi. En ville, lorsqu'un chêne est malheureux, pensez à l'entourer des siens, mettez des petits glands. Les arbres sont comme des éléphants, ils ont de la mémoire et ils sont lents. Parole de forestier allemand, bien loin des plateaux TF1. Bon, sinon dans le Figaro, cette information pour les quelques 5000 écoliers de Düsseldorf, Chambéry, Romans-sur-Isère et toutes les autres villes du tracé du Tour de France 2017. Cette semaine, les enfants, la dictée sera faite par des coureurs cyclistes. Oui, des vieux maillots jaunes ou simples vainqueurs d'étape. Ils seront dans vos classes pour cette inédite dictée du Tour de France. Le patron de la compétition espère ainsi donner aux jeunes la passion de la grande boucle, tout du moins à ceux qui savent où se place le Y de cycliste. Moi, j'hésite toujours. Enfin, dans les pages chantées du Figaro, ce régime pour vivre très très longtemps, c'est pas vegan, c'est chimane, du nom de cette tribu de la forêt amazonienne en Bolivie. Tribu qui stupéfait les scientifiques puisque les chimanes ont un cœur parfaitement sain jusqu'à 80 ans. Le secret, vivre loin de tout, des supermarchés et des médecins, rester assis moins de 10% de son temps et manger beaucoup de glucides, du poisson et des tapirs. Même si c'est compliqué dans notre monde industrialisé, nous pouvons adopter certains aspects de la vie des chimanes, explique un scientifique californien, auteur de cette étude, qui ne dit pas par contre quel goût ça a un tapir.
J'ai appris beaucoup de choses. Oui. Mais les tapirs, c'est des petits animaux mignons, là, non
qui, des tapirs qui avaient un aspirateur, là,
qui fourmis,
mais il faut les trouver.
Mais c'est pas bien de, vous savez, de pas du tout aller voir le médecin, de pas prendre de médicaments, ça ne fait pas du
si
tout.
Si on mange du tapir et qu'on va dans la forêt.
Mais il y a de l'emploi dans le médicament. Il y a de l'emploi chez le médecin. C'est comme les gens qui sont trop écolos. Il faut polluer pour ensuite dépolluer. Il faut faire travailler les gens. Polluer, c'est déjà faire de l'industrie, ça fait travailler du monde. Et dépolluer, ça refait travailler.
Les chimanes seraient l'explication de la crise mondiale, en fait.
Mais moi, j'ai pas compris les cyclistes avec la dictée.
Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas. Non, mais moi, effectivement, quand des cyclistes vont faire des dictées,
qui fait la dictée?
Il y a par exemple un ancien ami de Poulidor qui va venir dans les classes. Alors à 3, il y a le plus d'enfants qui vont suivre cette dictée, c'est à 3, notamment, il raconte. Et ils vont avoir une dictée sur la passion du vélo, le Tour de France.
Mais vous allez dire, ça va donner le goût du Tour de France.
Bah, c'est ce qu'espère le patron.
Aux enfants ou ça va donner le goût de l'orthographe aux champions de vélo?
Alors ça, je pense que c'est trop tard pour les cyclistes.
Super. Je monte le col machin, je m'arrête et là, je prends une piqûre d'opéo qui me fait repartir le Ventoux. Non, je vois un peu la description un peu de la dictée avec ce bel accent.
C'est mal ce que vous faites.
Ah bon, vous croyez?
Ah oui. C'est pas bien. Vous, l'albigeois, vous moquez de l'accent qui a bercé votre enfance.
Vous me faites douter,
Est-ce qu'on a le temps d'écouter un tout petit peu de musique avant le journal?
Oh, comme par hasard.
Mais après, on va l'interrompre, on va se faire engueuler. Alors, je ne sais plus. Non, mettez plutôt un truc genre virgule.
Une aise de la présence, peut-être.
Le journal de 8h33. Eh oui.
L'année 2000. Oui, bonjour Edouard, salut
Duiter,
à tous.
Ça fait plaisir de
c'est
te
moi-même.
Voir.
Bonjour, c'est marqué sur mon front quasi. L'année 2016 a été l'année de tous les records. Le réchauffement en cours a affecté, puisqu'on parle de réchauffement climatique, a affecté comme jamais auparavant tous les compartiments du système climatique, de la hausse du mercure à l'élévation des océans, en passant par la chute des surfaces de banquise. Ce n'est pas moi qui le dis évidemment, c'est l'Organisation Météorologique Mondiale, organisation onusienne, qui publie chaque année son bilan climatique. Bruno Le Roux est convoqué dans le bureau du premier ministre aujourd'hui. Bernard Cazeneuve va recevoir le ministre de l'Intérieur dans le cadre d'une nouvelle affaire liée à des collaborateurs parlementaires. Avant qu'il ne devienne ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux aurait fait signer jusqu'à l'an dernier 24 contrats de collaboratrice parlementaire à ses filles dès l'âge de 15 ans, à des moments où parfois elles étaient en stage ou à l'école. Selon Bruno Le Roux, il s'agissait de boulot d'été. Alors il n'a pas été question des affaires hier soir lors du débat télévisé entre les 5 principaux candidats à l'élection présidentielle, pas beaucoup en tout cas. Ce débat s'est étendu sur 3h24. Beaucoup de thèmes ont été abordés, l'éducation, retraite, laïcité, etc. Selon l'Institut Elab, c'est Emmanuel Macron qui a été jugé le plus convaincant par 29% des téléspectateurs, devant Jean-Luc Mélenchon 20%. Ensuite, on trouve François Fillon et Marine Le Pen 19% et puis Benoît Hamon 11%. C'est la grande affaire en Corée du Sud, la chute de Park Jong-hi. La présidente du pays a été entendue cette nuit, donc là-bas c'était en plein jour, par la justice de son pays à propos du retentissant scandale de corruption et de trafic d'influence qui a précipité sa fin politique. Martin McGuinness avait démissionné en janvier dernier de son poste de vice-premier ministre du gouvernement d'Irlande du Nord pour des raisons de santé. Ancien député, principalement connu pour avoir été chef de l'IRA, Martin McGuinness est mort. Il avait 66 ans. Pékin vient de fermer sa dernière grande centrale au charbon qui alimentait en électricité la capitale de la Chine. Désormais, l'électricité de la métropole, qui compte plus de 20 millions d'habitants, est exclusivement générée par le gaz. Si je vous dis Guyane, si je vous dis Kourou, vous me dites Ariane, la fusée, évidemment. Cinquième du nom, elle devait décoller cette fusée ce mardi pour placer en orbite quelques satellites internationaux. Ça attendra un peu parce que les salariés du groupe du centre hospitalier de Kourou, qui ont érigé un barrage à l'entrée du centre spatial guyanais, sont en grève. Ils s'inquiètent de l'avenir de leur hôpital. Ils n'ont pas choisi ce centre spatial par hasard, évidemment. Selon eux, lorsqu'on parle de la Guyane, il n'y a Dieu que pour lui. Une des chorégraphes les plus acclamées et influentes de son époque, dont le travail avant-gardiste a changé pour toujours le paysage artistique, c'est la compagnie Trisha Brown qui parle ainsi. La célèbre chorégraphe américaine est décédée, elle avait 80 ans, des suites, comme on dit pudiquement, d'une longue maladie. Trisha Brown a créé plus de 100 chorégraphies et 6 opéras, alors que Tito, lui, en est déjà à des dizaines et des dizaines de météos.
Ah, pas mal! C'est très bien moi, la jonction.
Je voudrais aller boire un café, moi, en fait.
Non, mais tu gâches la jonction de Thierry Paré.
Ah, pardon.
Je te mets une mauvaise note.
Tu vas passer dans le bureau du Premier ministre, aussi.
Martinique, c'est le plus bel pays. Alors aujourd'hui, bonjour à tous. Enfin, re-bonjour pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure. Les Clémence, les Clarence, les Clancy, les Clinis, les Collines. Bonne fête aujourd'hui. Alors il fera soleil de Brest jusqu'au Havre et de Nice à Perpignan. Ailleurs, c'est couvert ou bien il pleut. Les températures seront à Nantes de 5 à 12, à Bordeaux de 6 à 12, Clermont-Ferrand de 3 à 12, à Dreux de 10, à Laval 3 et 11, Limoges de 2 à 9, Saintes de 5 à 12, Vienne de 5 à 16, Paris de 2 à 16, Montpellier de 8 à 20. Lailo, 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 Martinique, ouais, c'est le plus bel pays. Lailo, 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 sentez-moi la la la, Martinique, c'est le plus bel pays.
Qu'est-ce que tu racontes?
Il a rappé, ça arrive.
Martinique, c'est le plus bel pays.
Oui, normalement, c'est une chanson très connue par les Martiniquais.
Ah, ça fait du bien, parce que déjà qu'on maltraite la Guyane, ils ont raison, les gars. Moi,
oui, non, c'est pour ça.
J'ai l'impression qu'on maltraite les dom-toms en France. Jean-Pierre Tutin, le formidable, mon vieux camarade Jean-Pierre, va chanter ce soir à la mairie du 2e arrondissement de Paris. Ça va, Jean-Pierre?
Mais oui, ça va très bien.
Ah, cette voix. Jean-Pierre Tutin, moi j'ai eu la chance, il nous a accompagné à un spectacle qui s'appelait Le Mezzé. Et Jean-Pierre, en plus d'être un grand chanteur et pianiste, c'est un personnage, c'est une sorte de second couteau de Michel Audiard. Je te le disais tout le temps, Jean-Pierre, tu aurais dû faire du cinéma.
Ah oui, mais j'attends que tu m'appelles.
Qu'est-ce que tu vas chanter ce soir, Jean-Pierre, à la mairie du 2e?
Eh ben écoute, je vais chanter les chansons que j'aime, c'est-à-dire les chansons de mes copains d'il y a 50 ans, qui étaient Léo Ferret, qui étaient Brassens, qui étaient Brel, voilà, c'était tous ces gens-là, mais aussi des gens moins connus, comme Jean-Claude Darnal, comme Maurice Fanon, que tu aimes, toi.
Maurice Fanon, l'écharpe, si je porte à mon cou en souvenir de toi cette écharpe de soie.
Mais tu sais que tu as une très jolie voix, finalement.
Oui, merci. Dis donc, Jean-Pierre,
Oui,
on s'envoie des petits compliments. Non, mais Jean-Pierre, il faut aller écouter Jean-Pierre Tutin parce que c'est un bagout très, très unique, très étonnant.
J'espère que.
C'est à quelle heure et c'est où exactement, Jean-Pierre?
Eh ben, écoute, c'est à 20h30 et c'est à la mairie du 2e arrondissement.
Il y aura du Paris-Paname, ça sera à l'ancienne, Jean-Pierre.
Bah, tu parles, hein? Si on va pas, bah, mon pote, bah, je comprends, oui, bah, alors.
Hein? Ça va envoyer.
Et Laurent Lin, comment il va?
Il va bien, il est à Saint-Etienne. Il y aura tout le monde ce soir. Il y aura Maurice Birot, il y aura Gabin, il y aura Ventura, il y aura Robert Dalban.
Ah, dis donc, que de souvenirs.
On t'embrasse et on espère qu'il y aura beaucoup de monde ce soir à 8h30 à la mairie.
Eh ben, ça m'inquiète pas tellement. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que ce soit des gens qui aiment la vraie chanson.
Voilà. Salut mon pote.
Salut mon Édouard et merci.
On part dans les rues de Toulouse.
Ah.
Oh là, une cascade, une tornade.
Et non, j'étais dans la rue à côté du marché Victor Hugo et il y a une grande fumée qui est venue s'engouffrer dans la rue et on m'a dit « C'est Baquier qui t'aurait pris le café !» Donc j'ai été voir Baquier et en fait là je suis devant 80 kilos de c'est ça monsieur ?
De muscles.
80 kilos de café, voilà. Vous nous entendez bien ou pas ?
Oui, très bien, très bien.
Ok, alors là on est en train de torréfier le café, il y a 80 kilos de café quoi, vert quoi.
Alors, ça, c'est du café. C'est un mélange qu'on fait nous-mêmes. C'est un mélange d'arabica avec un peu de sucre. Donc voilà, c'est... il vient d'être torréfié, c'est pour ça là.
C'est quoi le
café qui est en train de remonter.
Voilà, c'est ça. C'est quoi ce bruit de torréfaction? Alors, c'est... il se passe quoi? Ça chauffe, ça craquelle, ça tourne?
C'est ça. C'est un tambour qui permet de faire cuire le café. Ça chauffe à 250 degrés. Et voilà, ça cuit le grain de café pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes.
Donc le grain, il arrive d'où, le grain? Il arrive en grand sac de grain, il arrive d'où?
Ça, ben, il arrive essentiellement, on travaille avec des cafés d'Amérique centrale, Amérique du Sud.
Hein. Et là, vous passez la main dedans. Pourquoi vous passez la main quand ça tourne?
Attention, petit lapin, tu risques de te faire passer.
Pour contrôler la température du café, en fait. Je passe la main dedans toujours pour contrôler la température.
C'est sans danger?
Non, il n'y a pas trop de risques. Hein. On va trop se coller au four, mais sinon ça va.
Vous avez tous vos doigts?
Toujours.
C'est important d'avoir ses doigts.
Oui.
Vous êtes pianiste?
Non.
Qu'est-ce que vous aimez faire avec vos doigts? Vous faites des sports, des instruments de musique? Vous aimez caresser les cheveux de la femme que vous aimez?
Voilà, entre autres. Hein. Non, après, je fais du sport, oui. Un peu d'escalade, donc j'ai besoin de tous mes doigts, oui.
Ah ben alors donc, vous servez de vos doigts de pied, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, parfois je regarde mes doigts de pied, je les trouve très inutiles. Vous escaladez, donc ils vous sont utiles?
Ah, ils sont très utiles, oui. Ils sont très utiles, oui. Si je ne les ai pas, ça va poser problème.
Est-ce que vous escaladez parfois pieds nus?
Non, c'est rare.
Et vous allez où près de Toulouse? Vous allez dans les Pyrénées? Vous escaladez où?
Oui, oui, dans les Pyrénées, oui.
C'est quoi vos plans escalade dans les Pyrénées? C'est vers où?
Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le secteur Bédéillac.
Bédéillac, je note, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Il y a un perroquet?
Oh, je ne sais pas.
Allez voir.
Il était inquiet avec la température. Là, il ouvre une vanne. Qu'est-ce qui se passe?
Je relance un café, en fait.
Oh, j'ai une trouille.
Faut qu'il relance.
Je relance une nouvelle torréfaction, en fait.
Bon, écoutez.
Pourquoi ça a sonné comme ça?
C'est... Parce que je contrôle la température et je mets une alarme pour savoir quand c'est que ça va partir.
Bon, écoutez, moi, je veux pas créer le bordel dans la torréfaction ce matin. Quoi. Donc, allez faire taire le perroquet. Nous, on va faire premier de cordée du côté de Bédéillac. Salut, camarades.
Ça marche, ciao.
Belle matinée, les gars.
Ciao.
7h-9h, plus près de toi. Nova.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Bah, j'y vais à pied, j'habite à côté.
Je suis tombé de ma douche, alors oui, je saigne. Excusez-moi, je suis en train de me mettre des produits pendant l'émission.
Moi, je pensais que vous preniez des bains.
Non, je prends des douches glacées et en chantant des chansons tyroliennes.
À la Polonsky. Voilà.
Alors, on va revenir un petit peu quand même sur le débat. Hier soir, mais on veut des détails, Thomas Baumgartner.
Oui,
je n'ai pas eu la chance de le voir, je veux savoir ce qui s'est passé.
Ça a duré 3h30, c'était sur TF1 hier, il y avait 5 candidats à la présidentielle sur 11, car il y a 11 candidats qui se présentent officiellement, qui se sont affrontés. Anne Lafter a regardé le débat pour
en
nous,
intégralité.
En intégralité.
Il
n'y
avait pas
bonjour.
De coup de pub, Anne Lafter?
Si.
Ah, ils sont forts quand même, de la pub au milieu.
Alors, il y a eu des impasses, il y a eu des sujets sur lesquels certains ont insisté, et puis il y en a certains qui s'en sont sortis mieux que d'autres. Alors, comment ça s'est passé? Qui a animé?
Alors, je dirais que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a animé les débats. En fait, il a fait son show à la Jean-Luc Mélenchon. On lui doit les meilleurs punchlines de la soirée. Et surtout, on lui doit d'avoir mis les pieds dans le plat parce que, en fait, pendant une très, très grande partie du débat, personne n'a parlé des affaires.
Oui.
Même pas les journalistes et aucun des autres candidats. Donc, à un moment donné, il y est allé. Il a parlé des affaires de Fillon et de Le Pen. Et c'est grâce à lui qu'on est arrivé dans ce domaine-là. Alors après, personne ne l'emporte vraiment dans ce débat, même s'il a été plutôt bon, avec des échanges vifs et sérieux. Mm-hmm. Par contre, on peut dire que c'est quand même Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se sont retrouvés au centre. Hein. C'est normal, c'est les deux candidats en tête. Mm-hmm. Et ça a été les candidats les plus attaqués. D'ailleurs, ça a amusé Macron, qui a dit plusieurs fois « vous vous ennuieriez si j'étais pas là ».
Mais c'était ce qu'on disait avant, c'est-à-dire qu'on tout le monde pensait que ce serait tout le monde contre Macron. Est-ce que ça a vraiment été ça la note?
Moins qu'on ce qu'on pensait quand même. Ah non, ça a été quand même les attaques ont été quand même principalement contre lui et contre Marine Le Pen. Mais c'est un peu tout le monde qu'on a pris pour.
C'est aussi Marine contre Macron beaucoup. Hein.
Tout à fait. Oui. Bah, c'est son candidat.
C'est son candidat. Donc
voilà.
Alors, est-ce que ça aurait été possible, d'après vous, un débat à 11 candidats, à la totalité?
Alors, c'est toujours possible. Hein. Ça serait d'ailleurs plus démocratique. Mais je ne suis pas sûre qu'on aurait eu un débat de qualité comme celui d'hier soir avec 11 candidats. Non.
On a appris des choses. Est-ce qu'il y a tout à coup dans les programmes des choses qui ont été annoncées? Il y a eu des belles choses? Il y a eu des choses émouvantes? Il y a eu des propositions fortes?
Il n'y a pas une nouveauté, non. Mais par contre, il y a un fait notable, c'est qu'il y a eu des alliances à géométrie variable. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on dépasse le clivage gauche-droite. Et donc ça, ça conforte Emmanuel Macron hein, dans sa stratégie. C'est-à-dire qu'on a vu des alliances comme François Fillon et Le Pen sur la sécurité et l'immigration, Macron et Fillon sur l'économie et l'Europe, mais Fillon, Le Pen et Mélenchon sur la Russie, ou encore Mélenchon et Le Pen sur l'euro, la diplomatie et les déficits. Et ça, c'est vraiment nouveau. Hein.
Des accords, pas des alliances. Vous étiez d'accord
oui,
sur des
voilà,
certains
des sujets. Accords
c'est,
sur les sujets.
C'est ce qu'on disait aussi. C'est pas parce que Marine Le Pen dit qu'il pleut qu'il fait beau. Il y a un moment, parfois, on peut être d'accord sur certaines choses évidentes.
Alors, ce qui est marrant, c'est que, par contre, Emmanuel Macron, il était un peu d'accord avec tout le monde, hein, sauf Marine Le Pen. Mais il était un peu d'accord avec Mélenchon un coup, un peu d'accord avec Fillon un coup, un peu d'accord avec Hamon, un peu d'accord avec lui-même.
Et il le disait. C'est-à-dire, je suis d'accord avec M. Fillon.
Ouais, ouais, tout à fait. Il a vraiment joué le dépassement du clivage, le pragmatisme.
Il y a eu des belles phrases qui sont sorties quand même. Moi, j'ai bien aimé la phrase de Macron qui a dit « Vous n'êtes pas le problème, les Français ». C'est-à-dire, c'est par rapport où tout le monde disait que le verre était à moitié vide, tout le monde, lui était avec le verre à moitié plein, il avait plein de confiance. «
Vous n'êtes pas le problème », il a dit.
Il a dit à la France, tout le monde disait « La France est malade, ça va être désespéré ». Lui, il est regardé en face, parce qu'il n'y a que lui, Fillon, qui regardait les spectateurs en face, avec une joie, une envie d'aider les gens, et en disant « Non. Ne croyez pas à la fatalité, vous n'êtes pas le problème. Moi, j'ai trouvé ça magnifique hein, de les reprendre.
Et les grandes phrases de Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi? Vous dites qu'il y a eu des punchlines.
Alors, il y a eu des punchlines. À un moment donné, il y avait Hamon qui prenait la tête à Macron sur le financement de sa campagne et Mélenchon qui a tranché. Enfin, un débat entre le Parti socialiste. Voilà, ce genre de choses. Il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
Ah voilà, Marine, oui. Ça vous l'aviez pas préparé.
Non, je ne pas toutes les punchlines de Mélenchon sous le coude.
Par rapport aux 9 candidats, il faut parler un peu au début des excuses, c'est-à-dire tous les candidats qui ont engueulé, sur les 11, qui ont engueulé TF1 en disant, moi, avec beaucoup de faudercherie quand même, Fillon qui a démarré en disant, moi, je veux soutenir mes camarades qui ne sont pas là.
Oui, c'est un peu démago.
C'était très démago, sauf Hamon qui a attaqué Billante, qui s'est même pas excusé et qui a démarré par son. Et j'ai trouvé ça plutôt honnête de la part, moi, je trouve.
Notre petit Jean Lassalle, il aurait été bien Jean Lassalle,
le géant
du Sud-Ouest. Donc ça pour conclure, cher Anne Lafter, on peut dire que ça avait de la tenue, que c'était de la grandeur de la République française.
Je pense que ça avait de la tenue. Moi, je regrette deux choses. Je trouvais que Benoît Hamon était un peu en retrait par rapport à son meeting de Bercy, moins offensif que ce qu'il aurait pu faire. Et surtout, on a peu parlé d'Europe et sorti de l'euro. La grande faiblesse de Marine Le Pen, et là vraiment sur le coup, elle s'en est bien sortie. Oui. Voilà.
Thomas,
oui. Très bien, moi je dis très bien.
J'ai un tout petit plus une anecdote. Il y avait donc dans l'axe de Marine Le Pen quelqu'un qui avait mis un énorme collier brillant et qui a gêné beaucoup longtemps sur les tweets, qui a gêné la.
C'était exprès, un peu comme quand Trump, pendant les débats avec Hillary Clinton, passait derrière elle.
Mais là, c'était un client à lui. Enfin, c'était vous voyez, dans le panel, comme derrière Marine Le Pen, ils ont cru que c'était Franck de la Personne qui s'était habillé. Enfin, c'était vraiment. C'était un truc.
Franck de la Personne, c'était bien.
Peut-être, c'est ce qu'on a cru. Et les gens ont tweeté et la fille, après le retour pub, n'était plus là. À mon avis, ça fait énormément engueuler. Parce que ça gênait vraiment quand on voyait Marine Le Pen, une espèce de collier lumineux qui n'arrêtait pas de scintiller.
Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre dans le public face à eux comme ça des gens qui les hypnotiseraient, comme le mage Mesmer,
oui, comme Dominique Webb qui avait des
Dominique
vieux.
Dominique de Mayweb. Merci. Anne Lafter, merci d'avoir regardé ce débat de 3h30 pour nous. Les publicités étaient sur quoi dans les interruptions?
Alors, je n'ai pas regardé les publicités. Ah,
sur la DS3, je crois.
Merci beaucoup à tous.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Non, là, pardon, mais je suis pressée, là.
Merci à la belle voix de Guylaine Landaise. François Rollin est avec nous en direct de Saint-Étienne parce que c'est une émission qui est plurilocale.
Pluristéphanoise. Alors, je vous propose ce matin, Edouard, un jeu de l'intrus.
Mais à travers moi, je crois que vous visez l'auditeur.
Oui, mais pas besoin de téléphone, l'auditeur joue chez lui et il corrigera lui-même sa copie.
D'accord, donc voilà. On fait confiance. C'est votre truc, François, faire confiance.
Voilà, s'il a gagné, il nous fera savoir en temps utile.
Voilà, en temps utile.
Il gagnera un séjour de mon choix, de la durée de mon choix, dans l'hôtel de mon choix, avec la personne de mon choix.
C'est ça.
J'y suis allé.
Surtout, Thomas Baumgartner y est allé la dernière fois, c'était bien.
C'était bien.
Bon, vous voyez. Donc, vous êtes chez vous, prenez un crayon, un papier, ou l'équivalent.
Voilà. Alors, je donne d'abord un exemple. Parmi ces quatre mots, trouvez l'intrus. Bolognaise, carbonare, cru, pesto. Bon, eh bien, l'intrus est cru, parce que cru n'est pas une façon civilisée d'accommoder les spaghettis.
D'accord.
Maintenant que tout le monde a compris, voilà le jeu. Alors je vous préviens tout de suite, Edouard, c'est politiquement gonflé comme jeu. Hein.
C'est culotté, ça ne m'étonne pas de vous, Rollin. Vous grattez l'époque là où ça fait mal.
Alors, parmi ces 12 mots, trouvez l'intrus. Artaud, Macron, Asselineau, Mélenchon, Cheminade, Le Pen, Poutou, Fillon, La Salle, Hamon, Dupont-Aignan, Intrus. Alors, vous vous êtes peut-être dit que l'intrus est intrus dans la mesure où Bertrand Intrus n'a pas ses 500 parrainages. Eh bien, c'est une erreur, il les a, mais il n'a pas éprouvé le besoin de les montrer. Non, l'intrus est Mélenchon, à un double titre, parce que c'est le seul dans la liste qui a un prénom composé, et c'est également le seul dans la liste qui tiendra une réunion publique au Havre le 29 mars à 19h30. Une réunion à laquelle, soit dit en passant, assistera Bertrand Intrus, qui est très disponible en ce moment, vu qu'il ne fait pas campagne malgré ses 500 parrainages.
François Rollin ?
Oui, oui, Edouard.
Je vous remercie. Vous allez loin, vous allez fort,
ouais,
vous avancez comme un cheval fou le long des allées de la France en peur.
Ouais.
Vous êtes notre étendard, vous êtes notre drapeau. Il faut se rallier à votre panache blanc, François Rollin, aujourd'hui à Saint-Étienne. Mais à travers Saint-Étienne, je crois que vous êtes omniprésent, vous êtes tautologique, vous êtes partout.
Je l'espère.
Vous êtes la réponse à des questions qu'on ne se pose même plus, François Rollin. Vous êtes le soleil dans la nuit. Vous êtes le soleil après la pluie.
Il en parle bien.
Le printemps après l'hiver. Lorsque François Rollin paraît, tout refleurit. Les corps se dénudent, les corps s'accouplent. Et 9 mois après, naîtra l'enfant de ce printemps. C'était le printemps Rollin, c'est la fin de l'émission. Merci à tous. Eh bien, on se retrouve demain.
C'est le printemps.
Merci Anne, merci Thomas.
Merci
à toi, Ahmed. Merci à Manu d'avoir réalisé l'émission. Eugène Poumaillou, qu'on cite rarement, qui est formidable, qui organise tout. Merci Tito, merci Charlène, merci Marie Bonisseau, merci Thierry Paré. Merci à tous. Et si vous voulez être remercié dans cette liste, envoyez-moi vos noms et vous serez remercié. Et voici maintenant que s'avance les Trente Glorieuses. Merci, on vous embrasse. Salut.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.